pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'homme est arrivé dans les locaux du TCI, le tribunal du contentieux de l'incapacité, courbé sous le poids des certificats médicaux et des douleurs cervicales. Ici, les salariés blessés ou rendus malades par leur travail viennent réclamer une meilleure indemnité que celle accordée par la CPAM après leur accident ou leur maladie. L'homme a 44 ans, la santé bien entamée par une vie passée sur les chantiers. D'origine tunisienne, il ne maîtrise pas parfaitement le français et se noie sous les acronymes. Son histoire a paru dans un article du Monde, écrite par Rosane Le Saint. Son avocate, qui l'a payé entre 500 et 2000 euros, ne lui sera pas d'un grand secours non plus. Après une visite médicale qu'il a passée dans un Algeco, il prend place face à un juge, deux assesseurs, un pour les salariés et un pour l'employeur, ainsi qu'un représentant de la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie. L'avocate prend la parole. Elle doit prouver que le taux d'incapacité permanent partiel qui lui a été accordé par la dite assurance maladie a été sous-estimé. Plus le taux est élevé, plus le handicap est indemnisé. Pour un taux de 4%, l'indemnité sera d'environ 1500 euros versée en une fois. Au-delà du seuil de 10%, l'assuré percevra une rente à vie plus généreuse que la prime à la casse versée en une seule fois. Mais comme beaucoup de dossiers, celui de ce monsieur se trouve tout juste proche de la barre des 10%, mais ne la franchira pas. En 2013, sur 9703 décisions de recours, un quart seulement ont obtenu satisfaction. Et c'est presque sans surprise que le recours de ce monsieur lui est donc refusé. À l'angle du couloir, des spécialistes médicaux véreux attendent de le voir sortir déçu pour lui proposer de revoir avec lui son dossier pour plusieurs centaines d'euros. Cette histoire se passe à Marseille, mais celles que vous entendrez aujourd'hui ont eu lieu à Lille. On les écoute jusqu'à 14h au micro de Charlotte Bien-Aimée, au tribunal des salariés blessés. Des hommes et des femmes travaillent à faire entendre qu'ils ont vraiment mal.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Bonjour mesdames.
Bonjour.
Alors là, il s'agit de madame Miou, née le 18 avril 1937.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est vous.
Oui, c'est moi. Et donc, et moi, comme on a, l'avocat n'a pas donné suite,
pourquoi
on a pas.
Vous aviez.
Enfin, il est injoignable, il répond pas à mes mails, ni j'arrive pas à l'avoir au téléphone, donc c'est moi qui suis venue assister ma mère en fait.
Ben, ça sera tout aussi bien,
donc,
madame.
Je ne sais pas si je serai aussi bien qu'un avocat, je vais faire un avocat.
Peut-être mieux, madame, je vous le dirai. Peut-être mieux. Alors, madame, vous avez été victime d'un accident de travail le 17 décembre 2013. Alors, il s'agit d'une chute sur le trottoir. C'était vraiment pendant votre activité salariée. Que faisiez-vous comme activité?
J'étais surveillante d'examen. À l'EDEC. En plus, parce que bon, j'étais retraitée, je faisais ça en plus, quoi, pour dire d'avoir un peu d'argent. Et bien. C'est sur le parking que je suis tombée. Avec voilà. Les feuilles, je n'avais pas vu qu'il y avait des marches.
Vous avez souffert de quoi dans cette chute?
Les deux genoux.
Les deux genoux. Vous avez été opérée?
Non.
Donc, ce sont simplement, ça s'est résumé à des douleurs.
Oui.
Bien, alors, par décision du 19 février 2015, la CPAM a dit que vous n'aviez pas de séquelles, séquelles non indemnisables.
Voilà, c'est ça. Hein?
Donc vous allez l'expliquer au tribunal pourquoi vous avez formulé un recours.
Hein?
Vous faites l'avocate.
Donc voilà, donc j'assiste Madame Biot qui est ma mère. Donc effectivement, c'est un accident du travail du 17 décembre 2013. Donc maman a une petite retraite de 840 euros, tout simplement parce qu'elle a été commerçante pendant 27 ans. Donc en fait, le fait de travailler comme ça, de faire des surveillances d'examen, ça lui permet d'avoir un petit revenu complémentaire.
Oui, bien sûr.
Qui varie entre 1200 et 1500 euros par an. Donc maintenant, elle ne peut plus y aller parce qu'au fond, on est debout toute la journée. On monte et on descend des escaliers, notamment à l'EDEC. Hein, je veux dire, c'est immense.
Mais je connais, oui.
Et puis en plus, il y a beaucoup de surveillance en amphithéâtre. Hein. Donc il faut monter et descendre les escaliers pour donner des copies aux candidats. Donc ça devient très compliqué pour elle parce que depuis cette chute, elle a mal aux deux genoux. Donc elle avait peut-être de l'arthrose, mais en tous les cas, elle avait pas mal aux genoux. Depuis qu'elle est tombée, elle a mal aux genoux. Donc, il y a eu plusieurs examens qui ont été faits. Hein. Donc, au genou gauche, notamment l'IRM du 17 juin 2014, marque dans le rapport, hein, présence d'une petite fissure horizontale de la cante postérieure du ménisque médial.
Oui.
Le genou droit, elle a fait deux examens. Elle a fait une IRM le 2 mai 2014 chez Climal. Et là, on retrouve un aspect de fissuration un peu complexe. Donc, ce sont effectivement des séquelles douloureuses des deux genoux. Alors bien évidemment, ce sont des choses qui sont difficiles à prouver parce que c'est invisible. Hein, pour les médecins, la douleur, c'est quelque chose d'invisible, mais c'est bien réel. Donc l'objet du recours, c'est la décision de la CPAM,
oui,
qui a notifié le 19 février 2015 l'importante fissuration des deux ménisques aux deux genoux n'est pas imputable à la chute. Alors moi, je trouve ça injuste.
Donc, il y aurait un état antérieur.
On n'a pas d'état antérieur, puisqu'il n'y a pas d'IRM antérieur à la chute. Donc, comment les experts ou les médecins de la CPAM peuvent affirmer que les fissurations des ménisques de maman ne sont pas imputables à sa chute? Enfin, moi, je ne comprends pas très bien. Et bon, moi, j'ajoute ce qui semble un peu logique médicalement chez une femme de 76 ans qui tombe sur les deux genoux en sortant de son travail dans des escaliers qu'elle n'a pas vus, tout simplement parce que le parking de l'EDEC n'était pas éclairé. Que les escaliers qu'elle devait prendre pour aller chercher sa voiture, en fait, il y avait des feuilles mortes et qu'elle n'a pas vu les escaliers. Donc, il y a le préjudice physique. Donc, maintenant, elle a toujours mal aux deux genoux. Et ensuite, elle a son préjudice pécuniaire, puisque de toute façon, elle ne va quasiment plus faire de surveillance.
D'accord. Donc, vous réclamez une incidence professionnelle.
Ouais.
Voilà.
Parce qu'elle a eu un préjudice qui s'évalue à entre 1200 et 1500 euros par an. Bon. Ça a apporté un petit peu de beurre dans les épinards, même si ce n'était pas grand-chose, quoi.
D'accord. Merci, madame. Le tribunal vous a écouté. Les assesseurs, avez-vous des questions à poser à cette dame? Pas de questions. Madame Bécu représente la CPAM, mesdames, pour que vous soyez au courant.
Alors, il y a eu expertise, en effet, du docteur Rouin, qui précise dans sa discussion... Les lésions arthrosiques et les lésions méniscales ne sont pas imputables. En conséquence, la Caisse sollicite le maintien de sa décision, telle que prévue à l'article L434-1.
D'accord, merci Madame Bécu. Si Madame est d'accord, le tribunal va quand même faire examiner par le médecin consultant. D'accord. Je vais vous demander de ressortir.
D'accord.
Et puis on vous appelle.
Hein? Merci.
Merci. Eh bien, mon avocat, il est bien.
On verra ça après.
Hein. Parle bien, hein. Parle bien. Enfin, si vous en voulez un, avocat.
Bon, je me demande effectivement si l'issue sera favorable ou pas. Parce que c'est un peu l'histoire du pot de fer contre le pot de terre. Ils font le maximum pour ne pas indemniser les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou que sais-je.
Enfin, voilà. C'est comme ça.
Bien, nous allons écouter le médecin consultant qui vient de vous examiner.
Oui.
Il va dicter son rapport.
Ce jour, l'examen retrouve des douleurs des compartiments internes, ainsi qu'à la mobilisation rotulienne, symptomatologie symétrique sans déficit fonctionnel, qui correspondent donc aux lésions arthrosiques mentionnées. Cet examen clinique est similaire à celui du médecin expert, qui avait conclu à une consolidation sans séquelles. Point final.
D'accord. Bien, ben on se donne un temps de réflexion sur votre dossier. Donc on met en délibéré au 9 décembre. Ça signifie que vous recevrez notre jugement par lettre commandée quelques jours après le 9 décembre.
D'accord. Hein?
Voilà. Bonne journée, bon
merci.
Retour.
Merci beaucoup.
Au revoir,
monsieur. Au revoir, bon courage. Merci.
Bien. Alors, vous avez fait une demande de pension d'invalidité, monsieur, le 29 avril 2015.
Oui.
Ça a été rejeté le 13 août 2015. Alors, très succinctement, j'ai relevé une hernie discale L4, L5, S1 et un problème ou des problèmes cardiaques. Voilà. J'ai pas d'autres éléments dans le dossier.
D'accord.
Oui.
Alors, monsieur Marc a effectivement une tendinopathie de l'épaule gauche. Il a, sur les deux mollets, des problèmes articulaires.
Et genoux.
Voilà, qui entraînent pour lui de graves difficultés pour se déplacer. Et en plus de cela, il a une sourdité à l'oreille droite. La réunion de l'ensemble de ces pathologies en 2015 constitue, à mon sens, un motif d'attribution de la pension d'invalidité, puisque tout cela réduit de manière importante
sa capacité de travail,
étant précisé que les deux maladies concernant la tendinopathie et puis au niveau des genoux a été reconnue en qualité de maladie professionnelle.
Vous faisiez quoi dans la vie, monsieur?
Je travaillais dans une brasserie à l'Arble Douai.
Ouvrier brasseur?
Oui, conducteur de machine.
Et vous êtes passé au médecin du travail?
J'ai passé au médecin du travail à ma demande, parce que mon patron, il ne voulait pas.
Oui.
Et c'est le médecin du travail qui m'a dit de demander de maladie professionnelle. Parce que j'étais toujours debout et j'avais toujours les mains et les pieds dans l'eau, quoi.
D'accord, j'ai bien...
38 ans.
Durant 38 ans. Monsieur, est-ce que vous acceptez d'être examiné par le médecin consultant d'audience? Bien. Je vais vous demander de ressortir, puis on vous appelle dans quelques instants. Hein. Bon.
Pardon. Je faisais de la limonade. Une préparation de la limonade, c'est les bouteilles, ils arrivaient vides. Il passait dans une machine pour remplir limonade citron, orange, cola. Et après, ils sortaient, puis ils étaient capsulés et étiquetés. Et après, ils partaient en pack et on les mettait sur palette pour les camions. On a toujours travaillé dans le froid, quoi, parce que c'était un grand hangar, il n'était pas chauffé. Il faisait moins 10, moins 15. Ça m'a provoqué que les douleurs, tout ça, puis la fatigue, parce qu'on faisait beaucoup d'heures supplémentaires. 12 heures par jour. Et puis on était payé à 7 heures ou à 8 heures, quoi. Donc tout ça, c'était fatigant. Et toujours dans l'eau. L'hiver, on avait les mains gelées. On n'avait pas de gants, pas de casse, pour résoudre. C'est pour ça que là, j'ai 50 à l'oreille gauche et 30 à l'oreille droite. Mais il faut 35 et 35 pour être reconnu maladie professionnelle.
Vous n'êtes pas assez sourd?
Voilà. Ah, moi, j'ai mal parce que j'ai toujours les douleurs et puis je peux pas rester debout longtemps, je peux pas rester assis longtemps. Et je peux pas scier, je peux pas taper du marteau. Une scie sauteuse, je peux pas le faire non plus parce que ça vibre, ça me donne mal jusqu'ici.
Et la difficulté en matière justement d'incapacité de travail, c'est que c'est une appréciation, si vous voulez, qui n'est pas faite in concreto. C'est-à-dire que globalement, monsieur a la capacité de travailler dans un bureau, etc., physiquement. Mais en réalité, n'ayant pas de formation spécifique, etc., pourra jamais retrouver un travail. Donc c'est en ça que je trouve cette procédure injuste. Effectivement, si vous le mettez devant un bureau, il va pouvoir travailler assis, etc. Mais quel travail, avec sa formation professionnelle, etc., ça lui est impossible.
Je vais avoir 57 ans et puis j'ai rien, j'ai pas de niveau d'études. Même le téléphone tactile, tout ça, je connais pas. Même l'ordinateur, ma fille, elle m'a déjà essayé de faire, j'y arrive pas. Alors...
Il n'y a pas de pension d'invalidité, il ne peut pas retravailler. Et donc, ça met les gens vraiment dans un état de misère extrême. Quoi.
Ils ne comprennent pas. Le chauffage, il faut le payer. L'électricité, il faut le payer. Il faut tout payer. Puis là, on est fin de mois. Ben, j'ai demandé de l'argent pour moi prendre le train. Parce que j'ai plus d'argent sur moi.
Vous avez demandé de l'argent à qui?
Un ami qui me les a prêtés pour me le rendre au début du mois. Je vois comment on vit après 38 ans de travail.
écrire.
Bon, là, on voit madame qui est harcèlement au travail. Alors, madame, vous avez déclaré une maladie professionnelle le 16 février 2015 et de l'autre côté, ça a été déclaré hors tableau par décision du 25 juin 2015. Hors tableau, c'est que la personne n'atteint pas un certain taux d'incapacité pour pouvoir prétendre à bénéficier d'une maladie professionnelle. Vous êtes toujours vendeuse?
J'étais visuelle merchandiser, en fait.
D'accord. Alors, vous avez un état anxio-dépressif qui serait engendré, ou provoqué plutôt, par un harcèlement au travail?
Oui, enfin, c'est sur la durée, en fait. Ça a été répété. Il y a plein d'actes qui ont fait que... on était tout le temps sur mon dos à la fois.
La direction, votre chef?
La direction et deux collègues également. Donc mon directeur, ma directrice adjointe, et il y avait deux collègues qui se moquaient de moi régulièrement.
Et pour quelle raison?
Alors je sais pas, il y en a une qui avait le même poste que moi, et on a été mis plus ou moins en concurrence en fait dès le départ, et elle m'a mis plein de bâtons dans les roues, elle m'accusait de choses à tort, et la direction n'y voyait que du feu. Et j'ai un collègue également... Enfin, qui s'amusait régulièrement à me bousculer, à me proférer des menaces. Il a même été jusqu'à me menacer qu'il mettrait de la mort au rat la prochaine fois. En fait, on avait un frigo en salle commune et je venais d'acheter un sirop de citron et il a versé du liquide vaisselle dedans. Bref, quand j'ai commencé à le voir, je me suis bien rendu compte de ça. Et il a même pas été... puni pour ça, il a dit que c'était pour blaguer, alors qu'il y a même eu des tentatives d'empoisonnement, et finalement, il se passait rien suite à ça. Je dormais plus de la nuit, je frappais des palpitations, des tremblements, c'était horrible.
Bien. Est-ce que vous êtes suivi
Ouais, j'ai un psychiatre, parce qu'au début, je voulais pas prendre d'anxiolytique, mais j'ai été obligée. Moi, je me suis pas encore reconstruite suite à ça. J'appréhende vraiment à retrouver un travail, à retomber dans la même situation. J'ai pas envie de ça.
D'accord, merci. Madame Bécu, pour la CPAM, avez-vous des observations?
Donc, la caisse rappelle qu'on examine une maladie professionnelle hors tableau du 16 février 2015, date à laquelle il faut se placer,
oui,
pour l'application de l'article R461-8 du Code de la Sécurité sociale, à savoir qu'il faut un taux au moins égal à 25%.
D'accord. Bien. Vous acceptez d'être examiné par le médecin consultant?
Oui.
Bien. Donc vous mettez dans la salle d'attente, le médecin va vous appeler. Et après l'expertise médicale, on se revoit.
D'accord. Hein?
Voilà. À tout à l'heure.
Dans une journée, on me donnait des tâches qui n'étaient pas possibles. Genre, en deux jours, je devais faire le travail d'une semaine, quoi. Tout seul, sans être aidé. Et puis, à me dire, mais de toute façon, tu sors pas de là tant que t'as pas fini. J'ai fait des heures pas possibles, puis on mettait une pression de dingue. Enfin, voilà. En fait, je conteste parce que je considère que c'est pas normal que des maladies dites psychologiques, en fait, elles soient pas reconnues. Quand on voit tous les suicides qui se passent dans les autres boîtes, enfin voilà, je trouve pas ça normal parce qu'elles se voient pas, on considère qu'elles existent pas, et forcément, enfin c'est plus difficile à détecter, mais la souffrance elle est là et elle est bien réelle, et je voudrais que ce genre de maladie ça soit reconnu en tant que maladie professionnelle et que ça se mette dans des tableaux. Dans le tableau, il y a toute une liste de maladies, mais ça en fait pas partie, bizarrement, donc je suis là pour ça.
Bien, madame, qu'essayez-vous? On va écouter le médecin qui vous a examiné. Hein?
Donc, il s'agit de madame qui est... Elle fait établir le 16 février 2015 un certificat médical initial pour un état anxio-dépressif par burn-out professionnel. Le dossier nous informe qu'elle est suivie en centre médico-psychologique depuis 2011, soit antérieurement à son embauche chez son employeur, et ce pour les suites d'un décès dans son entourage. Elle a mal vécu sur le plan narcissique à l'état 2013 des relations difficiles avec un de ses collègues, nécessitant plusieurs arrêts de travail répétitifs avec traitement antidépresseur. Il s'agit ici donc d'un état de stress au travail, sur personnalité antérieurement fragilisée, dont le taux d'IPP pouvait être estimé à 15%. Point final.
Merci, docteur. Madame, suite à ce rapport, avez-vous des observations à formuler ?
Pas spécialement. Je me demande comment vous pouvez donner un tour. Bah,
apparemment, il y a un guide, ouais. Un guide, ce qu'on appelle le guide barème. Je suppose que le docteur s'est référé à ce guide barème. J'ai bien répondu.
Comme ça, bien répondu.
J'ai bien répondu. Voilà. Mais ce n'est pas le médecin qui juge. On lui a confié une mission, il l'a remplie, nous sommes trois. C'est pour ça qu'on va se donner un temps de réflexion et vous recevrez, madame, notre jugement par lettre recommandée quelques jours après le 20 janvier. Voilà. Bon retour, madame.
Merci.
Alors, on peut voir le dossier de monsieur Estetric.
Ouvrier de production.
Qui est assisté d'un syndicaliste.
Bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Stétric est né le 31 octobre 58, c'est bien 17, ça, monsieur ça.
Oui, oui.
Et vous, vous êtes, monsieur
Monsieur Christophe, donc je suis délégué du personnel.
D'accord, pas de souci. Vous êtes autorisé de par la loi. Alors, monsieur a déclaré une maladie professionnelle le 10 avril 2015 et le 29 septembre 2015, on vous a notifié, monsieur, un refus de prise en charge.
Oui.
Vous êtes toujours agent de production ?
Oui.
D'accord. Dans votre dossier, je n'ai pas beaucoup de pièces médicales, mais j'ai vu qu'il s'agissait d'un arrachement distal lombalgique.
Oui, c'est ça. Ça m'est arrivé à l'usine.
C'est pas considéré comme un accident de travail, alors.
Bah, normalement, ça aurait dû passer en accident de travail.
Parce qu'un arrachement, ça fait mal, sur le coup.
Oui. Oui, parce que je portais des caisses énormément lourdes. Les caisses, elles faisaient plus de 25 kilos.
Bon.
Et j'étais à l'infirmerie, mais ils l'ont fait passer en maladie. Donc, j'ai arrêté pendant 15 jours. Je suis retourné au travail. Le médecin de l'usine m'a renvoyé. Et j'ai arrêté un an. Et après 9 mois, mi-temps.
Bien. Monsieur le délégué, avez-vous quelque chose à ajouter à ce qui vient d'être dit ?
Ouais, enfin, après, donc il a eu des inaptitudes pour le port de charges lourdes. Ah, clairement, ça n'a jamais été respecté, en fait. Ils ont continué à le mettre sur des postes avec des pièces lourdes à porter. Parce que clairement, il y a une pression derrière où le chef lui dit « si tu fais pas ça, ça sera un refus de travail, quoi ».
Bien.
Donc toutes les personnes donc, qui ont eu des soucis de santé, donc ils mettent à l'embellissement pour faire de la peinture, tout ça, mais enfin c'est pareil. Derrière en fait ils portent des pots de peinture qui pèsent. C'est pas des petits pots de peinture quoi. Enfin il y a beaucoup de choses. Faire du nettoyage dans des positions, dans les escaliers. Enfin il est pas ménagé en fait. Et donc derrière chaque fois. Ça revient derrière, des sciatiques.
Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'un arrachement distal lombalgique soit déclaré comme maladie professionnelle et non comme accident de travail. Parce que la douleur a dû être vive.
Oui.
Maladie professionnelle, c'est long, c'est dans le temps. Hein? C'est par exemple une caissière qui, au bout d'un certain... des gestes répétitifs, au bout d'un certain nombre d'années, elle a mal à l'épaule. Ce n'est pas une douleur brutale comme vous avez ressenti. Dans le cas de la caissière, c'est une maladie professionnelle. Voilà. Bon. Mais là, à mon avis, sous toute réserve, c'est un accident de travail. Alors maintenant, renseignez-vous si vous ne pouvez pas transformer en accident de travail.
C'est pas la caisse qui décide, Président. Non, c'est l'employeur qui doit établir la déclaration.
Voilà. C'est l'employeur. L'employeur, il n'a pas voulu reconnaître cet état.
Mais vous pouvez intervenir auprès de la Sécurité sociale pour le préciser. Parce que dans ces cas-là, vous pouvez, vous,
sous certaines conditions, établir la déclaration.
Ouais.
Si vous aviez estimé qu'à l'époque, c'était un accident de travail.
Parce que là, en fait, clairement, c'est une grosse entreprise.
Oui, bien sûr.
Et donc, on a une infirmerie. Et en fait, déjà, on est jugé par un infirmier. Mais c'est lui qui dit c'est un accident de travail ou non, c'est pas un accident de travail, en fait. Voilà.
Mais il n'est pas qualifié, l'infirmier.
Non.
Parce que moi, enfin, bon, là, on discute. Hein, et moi, je dis un arrachement distal, je sais ce que c'est. Ça vous coupe le souffle, ça vous arrache le cœur. Ouais. Donc, pour moi, c'était un accident de travail. Mais je pense qu'à la base, il y a une erreur. Bien, monsieur, je vais vous poser la question. Êtes-vous d'accord pour être examiné par le médecin consultant ?
Il n'y a pas de souci.
Donc, je vais vous demander de ressortir.
Oui.
Vous serez examiné par le médecin consultant. Et il mettra son rapport. Et après, c'est en délibéré, monsieur, au 9 décembre.
D'accord. Hein ?
Bonne journée, bon retour.
Merci.
En fait, j'ai des intérimaires qui se blessent. Ils vont à l'infirmerie. Donc, pour aller à l'infirmerie, vous êtes obligé de vous faire accompagner par votre chef. Et votre chef, sur le trajet, vous met un petit coup de pression. Et donc, ils leur disent « Ouais, bah, fais pas une déclaration d'accident de travail. On va te mettre tranquille un petit moment et tout. Comme ça, tu pourras te reposer et tout ça. » Mais après, en fait, il y a des gens qui continuent à avoir des complications. Et donc, après, ils sont plus couverts. Et donc, les gens se mettent en arrêt maladie. Et hop, on renouvelle pas le contrat. Comme ça, ben voilà, c'est bon, on se lave les mains comme ça. Les gens ont peur déjà de faire une demande de maladie professionnelle. Parce qu'ils ont peur pour leur carrière, ils ont peur d'être licenciés, alors que ça les protège plus qu'autre chose. Quoi. Donc nous, chez nous, c'est les troubles musculo-squelettiques. C'est canal carpien, épicondylite, les épaules. Et donc après, ben, forcément, il y en a qui abandonnent parce qu'ils se font noyer... dans tout le côté administratif qui est fait exprès, parce qu'on fait d'abord la demande de maladie professionnelle, après on peut vous envoyer au recours à l'amiable, après au tribunal administratif, au contentieux. Tout le système est fait pour vous noyer dans les papiers et dans les délais aussi, et comme ça après c'est bon, enfin ils font des économies comme ça.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre au tribunal des salariés blessés. Un reportage de Charlotte Bien-Aimée réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à monsieur Yves Martin, à toute l'équipe du TCI de Lille, ainsi qu'aux salariés et à leurs défenseurs. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des pieds sur terre. Livia Garrix, c'est la stagiaire en chef. Et la stagiaire adjointe, c'est Sabine Zovigian. Commentaires, réactions, partages, suggestions. Direction les réseaux sociaux, Facebook et autres Twitter. On vous y attend nombreux.